Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Les automobilistes ont retrouvé le sourire, comme ici à Toulouse, où le prix du gasoil a reculé à moins d'1,60€ le litre, contre 2€ il y a un an.
C'est passé à 1,58€. Avant, je mettais 10 litres, j'étais à 19€ à peu près. Et là, franchement, à 16€ avec 10 litres, c'est parfait.
Derrière sa caisse, le pompiste a pu constater un changement de comportement de ses clients.
Il y a un an, les gens ils mettaient 5€, 10€. Et maintenant, je vois que les gens ils mettent 50€ et faire même le plein.
La tendance à la baisse du prix de l'énergie est mondiale. Elle concerne le pétrole, le gaz et l'électricité. Un véritable retournement de situation. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, les États font face à une crise énergétique. Il y a 2 ans en France, faute de livraison de gaz russe et à cause de centrales nucléaires en maintenance, on se demandait même s'il y aurait suffisamment de gaz et d'électricité pour passer l'hiver.
Si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales.
2 ans plus tard, les scénarios de coupure et de rationnement sont bien loin. D'autant que le parc nucléaire tricolore a retrouvé des couleurs. La production d'électricité remonte en flèche grâce à l'atome et à l'essor des énergies renouvelables. Les factures des ménages pourraient bientôt s'alléger. Bruno Le Maire a récemment promis une baisse de 10 à 15% en février 2025. Alors pourquoi assiste-t-on à un retour de l'énergie bon marché? Avec quelles conséquences sur notre vie quotidienne et sur la décarbonation de notre économie? La crise énergétique est-elle derrière nous?
3 spécialistes pour ce débat. Marc-Antoine Elmazega, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre énergie et climat de l'IFRI. C'est bien ça?
Mais oui.
Et selon vous, les prix du pétrole baissent car la demande mondiale est moins forte que prévu, notamment en Chine. C'est donc plutôt le révélateur d'une crise industrielle. Nicolas Goldberg, à côté de vous, responsable du pôle énergie du think tank Terra Nova. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également consultant spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Selon vous, il n'y a plus de risque de blackout. C'est vrai, c'était une crainte électrique en France. Mais la crise énergétique n'est pas terminée tant que l'on consomme 2/3, tant que l'on consommera 2/3 d'énergie fossile, il y aura toujours une menace de crise. Et à côté de vous, Anne-Sophie Elsif, bonsoir madame, économiste, chef du bureau BDO France, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous considérez qu'à long terme, les prix de l'électricité vont forcément augmenter car notre consommation va exploser du fait de la transition énergétique, aller vers une énergie propre mais plus chère. Voilà l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Et on démarre avec un chiffre.
Oui, 1,49€, voilà. C'est le prix à la pompe pour 1 litre de gazole relevé dans une station de plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône. C'est un record de la semaine dans le pays, dans tout le pays. Le gazole étant de loin, il faut le préciser, le plus vendu en France. Plus globalement, tous les carburants voient leur prix diminuer sensiblement. Marc-Antoine Elmazega, ça baisse parce que nous sommes moins dépendants de la Russie, c'est la première raison, plus autonome énergétiquement, ou alors, plus négatif, c'est le signe d'une crise économique.
Alors, pour l'instant, effectivement, une grande période de détente des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux, c'est un paradoxe parce que les tensions géopolitiques restent extraordinairement fortes. Et cette détente, elle se joue à la fois côté demande, parce que la Chine est en crise, c'est le premier importateur mondial. Mais au fond, il y a énormément de volume de pétrole sur les marchés, et des volumes qui arrivent en dehors des pays de l'OPEP, ce fameux cartel pétrolier, qui arrive des États-Unis, du Canada, de Norvège, du Brésil, du Guyana. Et toute cette production arrive, et au fond, les mécanismes du marché provoquent cette détente des prix. Et l'Arabie Saoudite a déjà signalé qu'elle en a marre de finalement se faire dépasser et de se faire tailler des parts de marché par d'autres, et que donc elle pourrait elle aussi remonter sa production. Et donc, dans le gaz, on a le même phénomène, puisqu'il y a énormément de gaz naturel liquéfié qui arrive, parce que beaucoup d'investissements ont été sanctionnés ces dernières années, qui maintenant sont mis en service. Et donc, on a un pipeline virtuel à travers l'Atlantique qui nous amène du gaz et qui remplace le gaz russe dont nous n'avons presque
donc,
plus.
Anne-Sophie Elsif, ça veut dire aussi qu'on a été capable de diversifier nos sources d'approvisionnement. On a bien joué, quoi.
On a toujours été capable de diversifier nos sources d'approvisionnement. Quand on regarde au niveau mondial, hein, par exemple les États-Unis, qui sont aujourd'hui le premier producteur de gaz et de pétrole de schiste, il y a encore 20 ans, hein, ils importaient massivement d'Arabie Saoudite et de Russie. Aujourd'hui, c'est moins de 6%. Et quand ils importent de l'énergie, c'est du Canada ou c'est du Mexique. Pareil pour la Chine, qui a totalement diversifié ses sources d'énergie avec l'Afrique. L'idée, c'est de jamais être trop dépendant d'un pays importateur hein, d'énergie, comme on l'a malheureusement été en zone euro, hein, notamment avec pétrole russe.
Avec la Russie. Donc, bonne réactivité de bonne ce point de vue-là, de tout le monde. Et en ce qui concerne l'électricité, pourquoi les prix baissent ?
Alors, en ce qui concerne l'électricité, on avait une situation exceptionnelle en 2022 du fait que le parc nucléaire était complètement en carafe. Depuis, le parc nucléaire français, qui représente quand même une bonne partie du nucléaire en Europe, là, le nucléaire a remonté sa production. Dans le même temps, on a déployé plus d'énergie renouvelable en Europe. Il y a des parcs éoliens offshore qui entrent également en service. On continue sur l'éolien terrestre malgré le bruit de fond qu'on entend. Sur le solaire, ça accélère énormément.
Le
bruit de fond qu'on entend d'opposition à l'éolien. Bon, on déploie toujours l'équivalent d'un réacteur nucléaire chaque année en éolien terrestre en France. Et la demande a baissé en raison des prix. Pourtant, les prix restent quand même assez élevés. Là, je vois sur votre graphique 82,6 euros du mégawattheure. Avant crise, on était plutôt autour de 50. Et si vous regardez ailleurs dans le monde, les industriels ont accès à une électricité plutôt entre 20 et 40 euros du mégawattheure.
On était monté à 600, hein, c'était énorme quand même.
C'était énorme, 82, c'est toujours élevé. Donc si vous voulez, dans les deux cas, ça ne va pas. Et si vous proposez à un industriel 82 euros du mégawattheure pour son électricité, il va vous rigoler au nez.
Ah bon ?
Et si en plus, vous lui dites, toi qui utilises du gaz, utilise maintenant de l'électricité parce que c'est décarboné, il va vous dire, je ne comprends pas pourquoi j'utiliserais de l'électricité à 80 euros, ou alors il faudra largement me subventionner pour que j'arrive à rester compétitif sur la 16 internationale. Et c'est pour ça que sur l'électricité, on s'est fait très très peur en 2022-2023 sur les blackouts, mais la crise est loin, est loin d'être terminée parce que les prix restent élevés. On va vers une électrification, donc à terme, on va consommer plus d'électricité, donc il faut déployer plus de moyens de production, et ça, il faut le financer. Donc je pense qu'il faut être prudent, on reste quand même sur des prix qui sont élevés, et une crise dont certains effets se sont estompés, typiquement le risque de blackout, mais où les prix restent élevés, aujourd'hui on ne peut pas se targuer d'une compétitivité de notre électricité, même en France.
Bon, on va y revenir, mais regardez une archive, vous parlez de 2022, regardez l'ambiance en 2022, c'est la panique, les prix montent en flèche à la pompe, puisqu'on parlait de la pompe, c'est l'opération quoi qu'il en coûte lancée par le gouvernement, sans discrimination et sans regarder exactement qui pourrait en bénéficier et qui ne pourrait pas en bénéficier. Regardez 2022.
Partout, que vous preniez de l'essence ou du gazole, le seuil des 2 euros le litre est franchi. Mais à partir du 1er avril et pour 4 mois, Matignon annonce 15 centimes de remise par litre, soit environ 9 euros pour un plein. Première réaction mitigée.
On verra ça quand ça sera dans mon porte-monnaie.
Une remise pour tous les particuliers comme les professionnels. Les distributeurs, les grandes surfaces l'appliqueront en caisse. Ils seront ensuite remboursés par l'État. Facture estimée, 2 milliards d'euros selon Matignon. Ce soir, le Premier ministre invite aussi les pétroliers à faire un geste supplémentaire en diminuant leurs marges.
Marc-Antoine Almazega, cette crise, cet affolement généralisé, il est derrière nous ou pas définitivement ?
Alors, on est dans un monde, je le disais, de tensions géopolitiques extrêmes, donc on n'est pas à l'abri d'un accident, mais aussi de phénomènes climatiques extrêmes, un ouragan dans le golfe du Mexique qui pourrait bloquer les bateaux américains et les empêcher de sortir. Donc tout cela peut arriver et arrivera forcément. C'est déjà arrivé, ça se reproduira. Maintenant, je crois qu'on a construit effectivement une nouvelle résilience. On investit massivement dans les technologies bas carbone. La mobilité électrique se déploie. On a diversifié les approvisionnements. Je crois que la sensibilisation des consommateurs, elle est quand même autrement plus avancée qu'avant. Alors bien sûr, il y a des questions sociales très importantes. Vous évoquiez un certain nombre de mesures. En réalité, il y a un sujet de politique sociale. Mais il faut distinguer les deux. Mmh. Par exemple, distribuer des subventions à tout le monde sans distinction
revenus.
Tout ça n'est absolument plus admissible.
Et d'ailleurs, Anne-Sophie, est-ce qu'on va revenir à des prix d'avant 2022 ou pas ? Il faut quand même dire que le tarif réglementé de l'électricité, vous disiez Nicolas Goldberg, a progressé de plus de 30% depuis 2021 quand même. Alors on se gargarise que ça ait baissé, mais est-ce qu'on peut retrouver un jour des prix ante-crise ?
Alors, pour tout ce qui est pétrole, ça peut être possible, hein, puisqu'on va voir que normalement, au niveau international, la demande va normalement se tasser, puisque l'idée, c'est de faire la transition. Par contre, en effet, sur le gaz et surtout sur l'électricité, je ne pense pas, hein, comme on va essayer d'être de plus en plus sur ce type d'énergie, vous allez avoir une demande qui va de plus en plus exploser, notamment dans l'industrie, qui doit se décarboner, et donc la demande sera plus importante. Mmh. Juste pour revenir sur ce prix, c'est vrai qu'on parle beaucoup, justement, de la transition écologique. C'est quoi aujourd'hui qui se joue l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine ? L'Europe, en effet, veut faire la transition avec une énergie décarbonée, mais qui reste excessivement élevée, on l'a dit précédemment. En Chine, aux États-Unis, ils n'ont pas cette problématique-là. Pourquoi ? Donc quand vous dites à un industriel, parce qu'ils ont du gaz et du pétrole de schiste, et qui polluent énormément, et que ce qui les intéresse, c'est le prix. Donc quand vous avez un industriel, pour ne pas le citer, Volkswagen, qui dit eh ben, je ne vais pas aller en Allemagne, et donc je vais tout délocaliser aux États-Unis, c'est aujourd'hui cette guerre du prix de l'énergie qui est vraiment au centre, plus que l'accès à l'énergie. Parce que derrière, il y a l'autonomie énergétique, hein, et l'indépendance d'avoir accès à cette énergie. Et comme vous le savez, plus vous êtes indépendant, moins vous êtes dépendant des autres. Et donc, s'il y a des conflits potentiels, c'est intéressant.
Évidemment. Pour revenir au prix de l'électricité, je crois que Bruno Le Maire, ministre démissionnaire, a annoncé qu'au 1er février 2025, la facture d'électricité de chacun d'entre nous sera de 10 à 15% moins chère.
Ça, c'est
étonnable, ça va...
C'est sûr que ça va se faire, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous voulez en profiter dès aujourd'hui, vous pouvez, de cette baisse de 15 à 20%, vous pouvez prendre une offre de marché, et si vous êtes très attaché à l'opérateur historique EDF, vous pouvez même prendre une offre de marché chez EDF, et vous avez déjà cette baisse de prix. Ouais. Donc après, vous pouvez la prendre ailleurs que chez EDF.
Certains ont eu des mauvaises surprises en allant chez d'autres opérateurs.
Il faut faire attention quand on change de fournisseur, avoir un fournisseur de confiance, mais aujourd'hui, comme les prix de marché sont extrêmement bas, si vous prenez une offre de marché aujourd'hui, vous avez déjà cette baisse de 15 à 20%.
Pas besoin d'attendre février.
Alors que les tarifs réglementés, en fait, font une moyenne des deux dernières années du marché. Donc quand vous faites une moyenne des deux dernières années, vous avez encore les prix de 2022 et 2023 aujourd'hui, c'est pas terrible. Si vous prenez votre offre aujourd'hui au marché chez un fournisseur alternatif ou non, bah, vous avez déjà cette baisse, donc vous pouvez déjà payer moins cher. Est-ce que ça revient au prix d'avant-crise, la réponse est non.
Non.
La réponse est non.
Et plus loin que ça, Marc-Antoine Almazega, est-ce que l'État ne va pas en profiter pour augmenter les taxes pour enflouer les caisses ? Est-ce que du coup, ça ne va pas gommer la baisse de la matière première ? Et puis, on nous annonce ici une réforme du marché carbone européen en 2027 qui pourrait à nouveau faire augmenter les prix.
Enfin, non.
On n'est pas au bout de nos peines.
Il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire que, bien sûr, l'État a besoin de davantage de revenus fiscaux. C'est clair. En plus, il n'y a presque plus de croissance. On fait face à des murs de dépenses pour l'armée, pour la défense, pour la sécurité, pour l'éducation, etc. Donc cet argent va devoir venir de quelque part. Et ça, c'est un débat de société. Alors on peut le faire sur l'énergie, on peut le faire sur les riches, on peut le faire sur les pollueurs, on peut le faire sur tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est un sujet que devra travailler, sur lequel devra travailler le Parlement. Maintenant, fondamentalement quand même... on est face à une bataille de l'électricité qui comprend des investissements extraordinaires dans les réseaux. Qu'on aime le nucléaire ou pas, qu'on aime les renouvelables ou pas, ces investissements extraordinaires...
Donc il faudra de l'argent, on baisse pas trop
bien
les factures.
Sûr. Et donc, la question, évidemment, c'est qui va payer tout ça ? Alors, une grande partie, ce seront les consommateurs, et ça sera partagé, mais il y aura forcément aussi de l'argent public qui viendra du budget, et... on l'a évoqué un instant, que faire de nos gros industriels énergo-intensifs exposés à une concurrence internationale ? Et eux, le curseur, c'est quel est le prix de l'énergie au Texas ? Quel est le prix de l'énergie en Australie ? Quel est le prix de l'énergie au Québec avec de l'hydro ? Et là, il va falloir aussi apporter des réponses, parce que si on ne les apporte pas, progressivement, notre tissu industriel s'érode, notre résilience s'affaiblit, et à terme, on n'aura pratiquement plus d'emplois. Mais ça, ce n'est pas un sujet pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les renouvelables, c'est un sujet absolument fondamental, et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris, en fait, encore.
Et à propos de nos usages à nous tous, si le gaz et le pétrole baissent, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une tentative de revenir peut-être ou de rester avec les voitures thermiques ou de revenir au chauffage au gaz et que donc la transition écologique va être reportée d'autant ?
On ne peut pas faire des fuel switch en permanence comme ça. Enfin, quand vous changez votre chaudière au gaz et que vous mettez une pompe à chaleur, quand le prix du gaz baisse, vous n'allez pas désinstaller votre pompe à chaleur pour remettre du gaz. Toutefois, on peut avoir un ralentissement. Toutefois, ça peut être du court terme. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique, faire le plein électrique, c'est trois fois moins cher qu'un plein d'essence. Même si le prix de l'électricité est un petit peu élevé, c'est quand même trois fois moins cher. c'est quand même trois fois moins cher. Donc oui, si le prix de l'essence baisse un petit peu, bah, l'écart se réduit, mais c'est toujours plus intéressant d'acheter un véhicule électrique. Et enfin, il n'y a pas que le signal prix, il y a aussi le réglementaire. D'ici 2035, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques neufs.
Normalement.
Donc,
Ce n'est pas repoussé.
Alors, si ce n'est pas repoussé, mais la France a déjà voté l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2040. Donc, il y aura peut-être des aménagements, et pas que la France, mais il y aura peut-être des aménagements entre 2035 et 2040, mais à cet horizon-là, on ne vendra plus de véhicules thermiques. Donc, il peut y avoir des ralentissements au gré des mouvements de prix, mais je ne pense pas qu'on reviendra complètement en arrière. Et de toute façon, il faut électrifier si on veut devenir plus résilient et gagner et tenir nos objectifs climatiques. On prévoit de diviser par deux nos émissions de CO2 d'ici 2030, c'est dans 6 ans, on n'a pas vraiment le temps de ralentir.
Alors, il paraît, vous allez réagir, parce qu'il paraît, on va voir ça avec vous, Anna, que les Français sont devenus plus sobres au niveau de leur consommation électrique.
Oui, exactement. Est-ce que vous vous souvenez de cette campagne gouvernementale de 2022 avec trois gestes simples pour promouvoir la sobriété ? Je baisse, j'éteins, je décale. Alors, je baisse mon chauffage à 19 degrés, j'éteins mes appareils en veille ou en marche quand ils ne sont pas utilisés et je décale l'utilisation de mes appareils électriques en dehors des heures de pointe. En tout cas, il semble que cette méthode a fonctionné, elle a porté ses fruits puisque la consommation d'électricité n'a jamais été aussi basse en 2023 selon le réseau de transport d'électricité. 445 TWh pour l'ensemble du pays. À titre de comparaison, c'est moins qu'en 2020, 459 TWh, alors que nous étions en pleine période de Covid. Alors, bien sûr, les Français sont devenus plus sobres aussi et avant tout pour des raisons économiques, mais cette tendance à consommer moins, voire mieux, pourrait perdurer. Dans une étude Ipsos qui est parue au mois de juin, près de 8 Français sur 10 déclarent vouloir continuer à faire attention à leur consommation, et cela même si les prix de l'électricité venaient encore à baisser. Anne-Sophie Alsif, est-ce que finalement, cette crise énergétique, elle n'aura pas eu le mérite de nous imposer cette sobriété dans un laps de temps très court ? Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle ?
Alors, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est vrai que moi, je serais un petit peu plus méfiante. J'aime bien regarder ce qui s'est déjà passé. On se souvient, pendant le Covid, on disait on a changé nos comportements, on ne prendra plus jamais l'avion. Le trafic aérien n'a jamais été plus élevé depuis 25% par rapport à la situation post-Covid. On en a parlé aux États-Unis, où les prix de l'énergie sont excessivement bas. Eh bien, on a une stagnation, voire une baisse de la vente des voitures électriques. Donc là aussi, on voit que l'effet prix joue. Et sur la consommation, on voit qu'en effet, même sur les ventes de détail ou sur les autres produits, l'aspect énergétique, on parle beaucoup du secteur de l'habillement qui sont très énergivores ou d'autres secteurs, on voit que dès que la croissance reprend, eh bien, les ventes explosent.
Et là, ça voudrait dire quoi ? Remonter le thermostat à 21, par exemple, au lieu de 19 ?
Non, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des économies sur l'énergie, puisqu'on l'a dit, avec la crise, il y a de nouveaux équipements, les fenêtres, la pompe à chaleur, etc. Mais ça ne veut pas dire, à mon sens, que toute la pratique de consommation sur d'autres ports va s'améliorer. Parce que c'est vrai qu'on a énormément fait un focus sur le prix de l'énergie pour se chauffer. Mais attention, on consomme, on s'habille, on voyage. Tout ça, c'est énormément d'énergie consommée. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas au quotidien comme ça. Mais c'est ça, aujourd'hui, qui grève le plus les budgets.
Et puis, globalement, Marc-Antoine Mazega, notre consommation d'électricité, à nous tous, va augmenter. Les véhicules électriques, on le disait, les vélos électriques, enfin tous nos appareils électriques. Donc, on va devoir, notre sobriété, elle est relative là aussi.
Oui, mais alors tout ça est évidemment très important parce qu'on agrège énormément de comportements individuels qui sont vertueux. Mais le vrai sujet, c'est l'industrie. Et notre industrie énergo-intensive, exposée à la concurrence internationale, celle-là, elle est en crise. Et donc, c'est là où en fait on a cette inflexion de la consommation d'électricité. Et ça veut dire quoi ? C'est la pétrochimie, c'est la production d'engrais, c'est la production de papier, c'est l'automobile qu'on évoquait tout à l'heure, etc. Et donc, quand vous mettez tout cela, vous avez cette courbe qui baisse. Et ça, c'est très préoccupant, très, très préoccupant. Parce que, au fond, cette production, elle va venir d'ailleurs. Et donc, on va la retrouver dans nos importations. Mmh. Et on va avoir des investissements qui vont se faire ailleurs au lieu de les faire chez nous. Et c'est exactement ça qui nous guette. Alors, il n'y a pas de solution miracle.
Vous êtes inquiet par la sobriété ? Enfin, on est surpris, vous
non,
dites attention.
Non, au contraire, c'est très important, mais ce que je veux dire, c'est que la vraie bataille, c'est celle de l'industrie, là, qui doit se jouer, parce que c'est de ça qui va découler notre croissance économique, la production de recettes fiscales, etc. Et la résilience, la souveraineté, absolument. Et là, je suis inquiet.
Nicolas. En fait, pour réagir sur la sobriété, il y a des gestes de sobriété qui vont rester. Enfin, 19 degrés dans les bâtiments qui accueillent du public, ça a toujours été la loi. Mmh. Avant, elle n'était pas respectée. Aujourd'hui, elle est respectée. Et pour les entreprises qui ont beaucoup de fonciers, comme les banques ou la grande distribution, ça va rester. Et dans cette baisse de consommation énergétique, alors, il y a de la destruction industrielle, et là, je rejoins tout à fait l'analyse de M. Almézaga, mais il y a aussi les lois qui sont mieux respectées sur la sobriété. Basculer, consommer plus d'électricité, parce que vous basculez d'un véhicule thermique vers un véhicule électrique, vous consommez plus d'électricité, mais en énergie, vous consommez moins. Donc, ce n'est pas contradictoire avec de la sobriété. Vous lâchez les véhicules thermiques, vous allez vers les transports en commun, c'est pareil, vous consommez plus d'électricité, mais c'est de la sobriété parce que vous revoyez l'usage. Toutefois, il faut être inquiet pour notre industrie, parce qu'avec ces prix-là, on peut se dire que c'est bon, ils ont baissé, mais l'industrie européenne, aujourd'hui, n'est pas compétitive à cause des prix de l'énergie. Et il y a une grande partie du rapport Draghi qui a été publié aujourd'hui sur la compétitivité...
Mario Draghi, qui
alerte sur les prix de l'énergie, mais chose que tout le monde voit, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'investissements massifs, d'État ou autre. Et si aujourd'hui, les États-Unis et la Chine ont des prix bas, c'est pas seulement parce qu'ils ont des énergies fossiles, mais parce qu'ils investissent énormément dans toute production d'énergie,
tout à fait.
Y compris éolien, nucléaire, solaire.
Alors voilà, la moitié question des éoliennes, c'est en Chine. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables. Ça coûte plus cher si le prix des énergies fossiles diminue. Ben, peut-être qu'on va moins investir dans des énergies qui sont alternatives, qu'on ne peut pas stocker, voilà, qui sont limitées.
Alors non, pas forcément. L'éolien. Nous, on a travaillé sur un rapport avec France Stratégie, justement, comment réintégrer la France, justement, à 2035. Et ce que l'on voit, c'est si on veut augmenter la part, justement, de l'industrie dans la valeur ajoutée manufacturière, bon, en disant la création de richesses, enfin, qu'il y ait plus d'industrie, si on voulait à 13-15%, on est aux alentours de 10% actuellement, eh bien, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc, bien évidemment, on va utiliser tout ce qui est nucléaire, mais la clé, c'est d'avoir plus d'énergie renouvelable. Et étant donné que vous allez avoir un effet de masse et que ce sera de plus en plus utilisé si vous réindustrialisez avec de l'économie décarbonée, le prix va baisser. Et en fait, c'est par ces énergies alternatives que vous pourriez redevenir compétitif s'il y a les bons investissements par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Pour le dire très simplement, hein, en effet, c'est ça la grande différence, et c'est ce que dit aussi très bien le rapport Draghi. Le grand problème de l'Europe par rapport à les États-Unis et la Chine, c'est que nous, on s'endette massivement pour faire une politique de consommation. On fait des chèques, on consomme massivement, c'est ça notre croissance. Aux États-Unis, ils ont aussi 7% de déficit public, plus que nous, oui, en Chine également. Par contre, ils investissent massivement uniquement dans l'industrie et dans la recherche et le développement. Et donc, c'est ça la grande différence, c'est qu'eux, ils créent de la valeur ajoutée, pendant que nous, on ne fait que de la consommation. Et comme on ne produit plus rien, eh bien, on n'achète que des produits par la Chine et les États-Unis.
Non, mais donc, c'est fini. On est cuit, Marc-Antoine Almézaga.
Il faut se réveiller, par contre.
Il faut se réveiller.
Mais comment on investit quand on est un déficit de 5,6%?
Et juste pour finir, le rapport le dit très bien, on a déjà l'épargne. Hein. En France, on a 3 000 milliards d'épargne. En Europe, on n'a jamais autant d'épargne. Donc, si on mettait juste 20% vers cette épargne, eh bien là, on aurait déjà beaucoup plus d'investissement. Et puis on pourrait aussi emprunter ensemble, hein, comme on l'a fait pour le Covid. Hein, on a acheté les médicaments ensemble, on a fait des emprunts communs, et là on pourrait investir. Mais attention, investir dans l'innovation, pas donner l'argent aux États pour investir dans autre chose.
Écoutez, c'est le mot de la fin. Non, j'ai pas que vous soyez pessimiste. Restons sur cette note d'espoir.
On
n'a plus le temps. Non, mais en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat assez passionnant, je dois dire. On n'y connaissait pas grand-chose, on a appris beaucoup de choses. Merci encore.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.